Jean Picaudier, Japan Congo, c'est une exposition qui a lieu du 6 février au 24 avril au magasin à Grenoble. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le plus important collectionneur d'art africain contemporain au monde, me dit-on. Ou si vous préférez, vous avez rassemblé la plus grande collection d'art africain au monde. Combien d'œuvres, Jean Picaudier ?
Oh, j'en sais rien, parce qu'il y en a qui sont tout petites. Alors est-ce qu'elles comptent ? Il y en a qui ont la taille d'une carte postale. Un artiste s'appelle Bruli Boabré, alors j'en ai peut-être 3000 de ces petits dessins, mais est-ce que ça compte comme 3000 pièces? Je ne sais pas.
J'imagine. Sinon, parmi les autres grandes pièces, sculptures, peintures, photos?
Disons à peu près 10 000 pièces.
Et elles sont où? Elles sont rassemblées dans un seul lieu?
Elles sont, oh, j'en ai quelques-unes chez moi, mais elles sont presque toutes au Port-Franc, à Genève, qui est un espèce de grand building gris et bien déprimant. À côté de Genève. Comme j'habite Genève, elles sont là et elles vivent là tranquillement. Mais elles voyagent beaucoup parce que j'ai fait des dizaines et des dizaines d'expositions dans le monde entier. Je crois qu'à peu près, peut-être 1 million de gens ont vu ma collection, entre les shows qu'on a eus dans le monde entier.
Aux États-Unis notamment.
Aux États-Unis, beaucoup en Europe. Enfin, évidemment, on ne monte pas les 10 000 pièces à chaque fois.
Alors, c'est une collection qui a été, vous venez de le dire, exposée dans les grands musées, mais pour la première fois en France, on l'a vu par petits bouts, notamment à la Fondation Cartier, quand ils se sont intéressés à l'Afrique. Mais pourquoi? Par manque d'offres?
Je ne sais pas, on n'a jamais... vous savez, en France, les gens sont traumatisés quand on écrit collection Monsieur Tartampion ou Madame Lafraise. Ils ne veulent pas, ils disent « Ah, mais vous essayez de là, en train de promouvoir votre collection. » Alors, ils me disent toujours « Vous savez, on ferait un grand, grand show si vous y étiez mort. » Alors, j'ai aucune envie de mourir pour montrer ma collection. Alors, ils me disent « Oui, vous savez, mais on ne sait pas, peut-être vous faites ça, et le jour après, vous allez tout vendre chez Christie's ou chez Sotheby's, vous allez vous servir de nous. » En vérité, j'ai vendu 22 pièces en 22 ans. Donc, je n'ai pas vraiment spéculé ni gagné d'argent avec cette collection. Mais ça existe dans d'autres pays aussi. Moi, je m'en fiche de mon nom complètement. Ce qui m'intéresse, c'est de promouvoir mes artistes, que les gens les voient. On peut mettre mon nom en tout petit à la dernière page du catalogue. Ça me gêne pas du tout. C'est pas...
Mais est-ce que vous imaginez, Jean Picaudier, un jour rassembler effectivement cette œuvre monumentale dans un seul lieu ouvert au public?
Ah, j'adorerais. Hélas, je ne suis pas Bill Gates ni Pinault. Alors, si j'étais très, très riche, j'aurais fait un musée maintenant. Et j'aimerais bien le voir avant que je casse la pipe, ma pipe. Mais je ne sais pas. Alors je suis ouvert. Si quelqu'un m'écoute, là, je suis prêt à faire quelque chose. Et je ne voudrais pas... Il y a trois endroits où je voudrais le faire. Je voudrais le faire ou à Paris, ou à Londres, ou à New York. Moi, je connais des fondations qui sont au fin fond d'une vallée ou d'une montagne. Et ils ont 8 visiteurs par semaine. Et ça ne vaut pas la peine. J'ai quand même fait un travail gigantesque depuis 22 ans. Et je voudrais quand même que les gens voient, et surtout pour les artistes, qu'ils soient montrés. Ça ne sert à rien d'avoir une fondation sur une petite île au fond du Pacifique. Ça ne m'intéresse pas.
Donc, revenons effectivement à cet intérêt pour l'art contemporain africain. Vous découvrez ça où et comment?
Il y avait une exposition à Paris, il y a à peu près 22 ans, à Beaubourg, qui était moitié Beaubourg et moitié à la Villette. J'ai été, le jour de la fermeture, à la Villette, vers 4h30 de l'après-midi, avec les gardiens qui voulaient partir, voulaient aller au café. Ils me disaient « avance, avance, avance ». Et là, j'ai découvert 4 ou 5 artistes africains qui m'ont bouleversé. Moi, je pensais que l'art africain, c'était des statues en bois noir ou des choses dorées ou des choses comme ça, comme on voit au Quai Branly, choses comme ça. Et là, j'ai vu des tableaux de Chéri Samba, des sculptures des maquettes de maisons absolument extraordinaires, de Bodis Kingelez, et des dessins de Bruli Boabré qui m'ont absolument bouleversé. Le jour après, j'ai appelé Beaubourg en disant « je voudrais acheter les pièces africaines ». Ils m'ont dit « ah, vous savez, le sponsor, Canal+, nous a aidés, donc toutes leurs pièces iront dans leur bureau. Mais si vous voulez, on peut vous faire rencontrer le curator, comment ça s'appelle en France ?
Le commissaire d'exposition.
Le commissaire, je déteste mon commissaire, je pense toujours à un flic quand on parle de commissaire. Enfin, le commissaire, qui est André Magnin. Donc j'ai rencontré André Magnin et j'ai dit « André, qu'est-ce que vous faites ?» Il m'a dit « vous savez, moi j'ai plus de travail. » J'ai dit « mais André, est-ce que vous voulez recréer la collection pour moi ?» Il m'a dit « absolument ». Et donc 22 ans ou 21 ans plus tard, on a refait ça, mais beaucoup, beaucoup plus grand. Et on s'est spécialisé sur l'Afrique en gardant 3 règles. Les artistes devaient être vivants. Ils devaient vivre en Afrique et ils devaient être noirs.
Jean Picozzi, vous me dites que vous avez été bouleversé, effectivement, par ces artistes. Qu'est-ce qui vous a bouleversé le plus ?
Ce qui m'a bouleversé, c'était, par exemple, c'était une idée, on se fait une idée de quelque chose, et puis on arrive, c'est que, par exemple, je sais pas, vous allez au cinéma, vous pensez que vous allez voir un film qui est une comédie, et vous partez du cinéma, vous avez pleuré, il n'y avait eu que des morts, des choses tragiques. Alors j'ai été dans le musée pour voir de l'art des pays émergents, et je suis sorti, j'ai vu des tableaux qui auraient pu être peints à Berlin ou à Brooklyn, ou je ne sais pas quoi, sauf qu'ils étaient peints par des artistes qui habitent en Afrique, souvent dans des conditions difficiles, et ils ont tellement de créativité et ils sont tellement puissants que ça m'a bouleversé. Parce que moi, je vois des tableaux qui sont faits à New York par des peintres qui ont 8 assistants avec des gants blancs et de l'air conditionné, et ça n'a aucun intérêt. Et là, je vois des tableaux qui sont faits par des gens qui n'ont même pas, ils ont été dans aucune école, qui ne savent peut-être même pas qui est Picasso, qui ne savent pas qui est Jeff Koons. Et c'est des tableaux d'une puissance et d'une force et d'une beauté extraordinaire. Et ça m'a vraiment fasciné, parce que c'est vraiment, vraiment, ça vient vraiment de l'intérieur de l'artiste. Ils n'ont pas copié, essayé de faire Renoir ou essayé de copier Klimt ou quelque chose. C'est venu de leur passé africain, d'une tradition culturelle extraordinaire, et aussi de certains dont l'influence de l'Occident. Et le mélange des deux a fait des choses tout à fait incroyables. Et c'est ça ce qui m'intéresse.
Et donc, est-ce que vous les achetez en galerie ? Est-ce que vous allez les voir dans leur pays ? Comment ça se passe ?
Alors, je n'ai jamais été en Afrique.
Dites donc, Jean Picozzi.
Mais non, jamais, jamais, jamais. Et j'aime l'idée, cette illusion de l'Afrique que je connais par Tintin ou choses comme ça. Mais André Magnin, lui, a été en Afrique. Et aucun des tableaux dans la collection, c'est pas André qui a dit on va mettre. Je les ai tous choisis, je les connais tous. Mais je n'ai pas été en Afrique. Galerie, il n'y en a pas. Il n'y a pas de galerie en Afrique. Donc, disons, 95% des tableaux dans la collection ont été achetés directement chez l'artiste. Alors, je connais beaucoup des artistes parce qu'ils sont venus en Europe pendant des shows et des choses. Donc, on est devenus amis. On a beaucoup parlé de ça. Mais je n'ai jamais été en Afrique.
Chéri Samba, vous le connaissez ?
Chéri Samba, je le connais très, très bien. Je l'ai rencontré plein de fois.
Racontez-nous un peu comment
il est extraordinairement intelligent et sympathique et rigolo. Et on a été en Amérique ensemble, on a été dans beaucoup d'endroits ensemble. Il est très, très, très vivant, pas du tout naïf, très, très intelligent, très, très curieux. Lui, il connaît très, très bien l'art occidental. Il peint de mieux en mieux. Techniquement, il est devenu de mieux en mieux. Ses tableaux sont de plus en plus extraordinaires. Et c'est un des artistes, à mon avis, un des grands, grands artistes contemporains mondiaux. Et il habite en Afrique. Pour moi, il est aussi fort que Jeff Koons ou que d'autres. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire des expositions dans des musées ethnographiques, c'est qu'on mélange les tableaux de Chéri Samba mis à côté d'un Warhol, mis à côté d'un Jeff Koons. Ça m'intéresse. Mais il y a des chefs-d'œuvre. Il y a vraiment, vraiment des chefs-d'œuvre. Évidemment, je ne sais pas combien de tableaux il a fait dans sa vie, peut-être 1000 ou peut-être plus. Ce n'est pas quelqu'un qui peint très rapide. Ils sont très, très... Ils sont compliqués, ces tableaux, donc il n'en peint pas tellement. En plus, ils sont assez grands, ils sont très, très bien faits. Alors peut-être il fait, je sais pas, 8 ou 9 tableaux par an, mais il fait 2 ou 3 chefs-d'œuvre par an. Je suis presque sûr de ça.
Vous êtes au courant de sa production au fur et à mesure, comme les autres, d'ailleurs ?
Non. Pendant des années, il a eu des galeries à New York et en Allemagne, et ça ne s'est pas vendu. Très, très peu. Alors un jour, je l'ai rencontré, il m'a dit, vous savez, ça ne marche pas. Et je lui ai dit, écoutez, si vous voulez, moi, je vous achèterai tout ce que vous faites. Donc pendant 5 ou 6 ans, j'ai presque acheté tous ces tableaux. Maintenant, il est devenu connu de nouveau, donc maintenant, j'achète 2 ou 3 tableaux par an. J'aimerais les acheter tous, mais il y a des gens qui me tapent sur la tête pour les avoir. Alors, vous savez, d'un autre côté, on ne peut pas tout avoir, parce que si j'ai tous les tableaux, on va dire, ah, il a tous les tableaux, donc il n'y a que lui qui les a, et tout ça, ce n'est pas bon non plus pour lui, pour rien. Donc, je suis content de partager.
Vous avez fait sa cote, en quelque sorte. Vous avez contribué à...
Je l'ai aidé à sa cote, oui, parce que ça vaut plus cher, mais j'ai surtout aidé qu'on le connaisse mondialement, et on a monté dans beaucoup, beaucoup d'expositions, on a publié dans des catalogues, on l'a beaucoup aidé. Mais il est intelligent, vous savez. On peut être un très, très grand. Par exemple, Van Gogh était un peintre extraordinaire. Il a vendu un seul tableau dans toute sa vie. Il y a certains peintres qui sont très, très mauvais, mais ils sont très, très forts pour la promotion. Alors, il faut allier les deux. Il faut qu'un peintre soit un bon peintre, mais en même temps, il faut qu'il travaille beaucoup, il faut qu'il soit gentil avec les galeries, avec ses clients. Et, vous savez, il y a aussi un peu de... Il y a un peu de promotion, de showbiz autour de ça. Et lui, il comprend ça. Il s'habille très, très bien. Il est très amusant. C'est un séducteur et tout ça. Il comprend. Il y a d'autres peintres qui sont des espèces de chameaux et qui ne veulent voir personne et qui sont peut-être des grands artistes, mais... Ou alors, ils sont... pas contents. Ah, mais je suis mieux que celui-là. Pourquoi est-ce qu'on ne montre pas mes tableaux et tout ça. Vous savez, c'est... Par exemple, Damien Hirst. Je ne sais pas si... Moi, j'aime beaucoup. C'est un copain, moi. Mais c'est le roi de la promotion. Alors, il est Jeff Koons aussi. Hein. Warhol était le génie des génies des génies. Par exemple, un autre comme Jasper Johns. Presque personne connaissait Jasper Johns. Et maintenant, c'est un grand maître, mais il est pas oublié, mais presque. Il faut aussi avoir une très, très bonne galerie et il faut avoir beaucoup d'énergie et beaucoup avoir envie de sortir et de faire du bruit. Et ça marche ensemble.
Le talent seul ne suffit pas, bien évidemment. Alors, vous êtes photographe vous-même et vous avez acheté des fonds de studio magnifiques. Il y a des photos, mais de toute beauté, dans cette exposition. La photo africaine vous a-t-elle intéressé aussi dès le départ? Ou comment avez-vous été amené à acheter effectivement des fonds entiers de studios africains?
J'ai toujours été très, très... J'étais fasciné toujours par la photographie. J'ai commencé à faire des photos que j'avais peut-être 9 ans ou 10 ans. Comme je suis dyslexique, je suis incapable de tenir un journal de ma vie. Donc j'ai à peu près tout photographié, tous mes amis, tous les gens que j'ai rencontrés, tout ce que j'ai mangé, tous les endroits où j'ai été, tout ça. Donc j'ai toujours été intéressé par la photo. Et on ne s'imagine pas qu'il puisse y avoir des grands photographes en Afrique. Il y a eu beaucoup de Blancs qui ont fait des photos en Afrique, mais André a trouvé beaucoup de photographes africains, qui est extraordinaire. Et le plus grand de tous, ce n'est pas André qui l'a trouvé, c'est moi. Il y a une exposition à New York, il y a peut-être 12 ans, je ne sais pas quoi. Il y avait deux petites photos et à côté, il y avait écrit « photographe anonyme ou inconnu, Mali ». Et j'ai vu ces deux photos-là et je savais que le type était un génie. Donc, j'ai photocopié le catalogue. Je l'ai envoyé par fax, il n'y avait pas encore de email. André a reçu deux, soi-disant, assez mauvaises photocopies. Et je lui ai dit « André, il faut que vous trouviez ce monsieur ». Il a pris l'avion, il a été au Mali, il a été à Bamako. Et il a pris un taxi. Au bout de 3 jours, il a trouvé un monsieur, un vieux monsieur, qui était assis chez lui sur une grande malle en fer bleu. Et il a dit, est-ce que vous avez fait ces photos? Et Seydou Keita a dit, oui, c'est moi qui ai fait ces photos. Qu'est-ce que vous voulez? Il m'a dit, mais est-ce que vous avez d'autres photos? Il m'a dit, oui, ça fait 20 ans que je n'ai plus de photos, mais dans cette malle-là, il y a à peu près, je ne sais pas, 5000 négatifs. Donc, André a commencé à regarder ces négatifs. Et au bout d'une demi-heure, il a compris que Seydou Keita était un génie. Donc on a fait un travail gigantesque, on a pris tous ces négatifs, on les a nettoyés, on les a fait des photos, on a fait des livres, on a fait des expositions, on a montré... Et il est maintenant devenu, je crois, un des photographes, sûrement le photographe le plus important qui est sorti d'Afrique, et un des grands, grands photographes du siècle dernier.
Au Congo, c'est Jean Depara.
Jean Depara. Alors lui, il est pas. Jean Depara, c'est un autre. Moi, j'ai parlé de Seydou Keita. Jean Depara qu'on va montrer maintenant au magasin, c'est un autre grand photographe. Carson Heller, qui est le commissaire de cette émission, a décidé de ne montrer que des artistes du Congo. Donc, il ne pouvait pas montrer Seydou Keita. Donc, il a montré Depara, qui était un autre photographe tout à fait extraordinaire des années 50 et 60 au Congo, qui a fait des photos extraordinaires. Mais là, j'en ai pas tellement. De Keita, j'en ai beaucoup. Là, j'en ai peut-être une centaine.
Alors, aujourd'hui, ça fait 22 ans que vous collectionnez effectivement l'art contemporain africain. Vous trouvez que ça a évolué, que les gens s'y intéressent, que cet art a sa place chez les Occidentaux?
Je vais vous dire. La différence, par exemple, avec l'art chinois, ou même l'art indien. Il y a des artistes chinois qui, à mon avis, sont bons. Beaucoup ne sont pas très bons. Mais il y a beaucoup, beaucoup de Chinois. Et il y a beaucoup, beaucoup de Chinois riches. Donc, ils achètent des tableaux venant de Chine. Donc, certains Chinois ont des cotes absolument hallucinantes. Alors, en Afrique, les riches africains ne sont pas encore prêts à dépenser beaucoup d'argent pour l'art. Ils achètent des Mercedes, des montres en or, des diamants pour leurs femmes, des maisons avec du marbre partout. Mais ils n'ont pas compris encore qu'on devrait dépenser 100 000 ou 500 000 euros ou 10 millions d'euros pour un tableau. Pour eux, c'est pas... ils y arriveront. Alors, ça, c'est un des problèmes. Le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas de galerie. Il y a des galeries pour touristes, au Hilton, je ne sais pas quoi. Mais il n'y a pas de galerie sérieuse. Et ça, le travail des galeries, on peut le critiquer, mais il est quand même assez important. Il n'y a aussi pas de musée vraiment en Afrique. Donc il y a beaucoup de choses qui n'aident pas la promotion de l'art africain. Et l'autre bêtise aussi qui a été faite, c'est que quand on fait des ventes aux enchères, on ne fait que des ventes aux enchères de tableaux africains. Et 95% des tableaux africains sont affreux. Donc, moi, je suis furieux, et j'en ai parlé avec tout. Il faut mélanger les tableaux africains avec Jeff Koons et Warhol et qui vous voulez. Et c'est une erreur de faire une espèce de ghetto de vente africaine. Comme il y a beaucoup de très, très... C'est comme si on faisait, je ne sais pas quoi, une vente de tableaux bretons. Alors, dans les tableaux bretons, moi, je ne sais pas, peut-être il y a 2% qui sont bons, tous les autres sont mauvais. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça que ça n'a pas l'air... Évidemment, les prix sont plus hauts, mais c'est pas... Si quelqu'un devait spéculer... J'aurais mieux fait d'acheter des tableaux chinois ou peut-être même des tableaux indiens. Mais pas sur, dans tous les cas, la grande spéculation, ça va peut-être arriver dans quelques années, mais je ne vais pas faire une immense fortune avec ces tableaux africains, je ne crois pas.
Mais est-ce que l'intérêt ou le désintérêt vient de là ou bien il vient d'un désintérêt de cette partie du monde quand même pour les Occidentaux? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ou pas?
Je vais vous dire ce qui est très très mystérieux. Si vous pensez que ni Beaubourg, ni la Tate Gallery de Londres, ni le MoMA, ni le Metropolitan n'ont un conservateur qui s'intéresse à l'art contemporain africain. Ils n'ont pas de département, ils n'ont rien. Alors, c'est comme mystérieux, c'est comme un des continents les plus importants dans le monde. Notre culture vient de là, on vient tous de là. C'est quand même très, très extraordinaire. Alors, on s'intéresse à l'art africain, Kay Branly, des choses avant 1900, dont la moitié sont fausses d'ailleurs, mais des petits bouts de bois avec des chiens, avec des clous dedans, tout ça, formidable et tout ça. Et si vous allez dans le carré des antiquaires, il y a 500 magasins qui vous vendent des trucs. Après, vous avez des gens dans la rue qui vous courent derrière, essayent de vous vendre des trucs faux qu'ils ont fait la semaine dernière dans leur cave. Mais bizarrement, l'art contemporain africain n'a pas encore excité les intellectuels, les marchands, les bourgeois de Park Avenue ou du 16e, pas encore. Je crois que ça va arriver. Moi, je vais vous dire, d'un côté, je suis assez content de ça, parce que j'ai pu quand même accumuler une grande... J'ai pas vraiment eu de compétition. Alors, je voulais acheter des trucs, des pièces. Il n'y avait pas 8 personnes qui disaient « Ah, mais monsieur, il y a une liste d'attente, vous devez attendre, ou il faut payer 8 fois. » On m'a pas vraiment, vraiment torturé de ce côté-là. De l'autre côté, avec tout le travail que j'ai fait de promotion et tout, c'est un peu mystérieux. Alors peut-être il y a du... Je ne sais pas. L'autre chose qui est intéressante, c'est les États-Unis. J'ai montré ma collection beaucoup de fois aux États-Unis et ce qui m'a vraiment troublé, c'est qu'au vernissage, il y avait très très peu de Noirs africains, Noirs américains. Très très peu. C'est très bizarre. Alors... Il y a une espèce de chose très extraordinaire aux États-Unis, c'est que les Noirs américains ne s'intéressent pas vraiment à l'Afrique. Ils s'intéressent à New Orleans, à James Brown, à Michael Jackson, mais quand on leur parle d'Afrique, ils ne veulent pas en entendre parler. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à comprendre pourquoi. Et un jour, un chauffeur de taxi à New York m'a dit « Vous savez pourquoi ? Parce que c'est ces salauds qui nous ont vendus aux Blancs. Pour que l'art vaille beaucoup d'argent, il faut que les Américains s'y intéressent. » Si ce marché-là ne se met pas dedans, il n'y a pas beaucoup de... Les pièces ne vont pas vraiment monter.
Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent? Par exemple, quand vous exposez aux États-Unis ou à Monaco, est-ce que c'est...
Beaucoup de gens viennent. Les gens adorent, ils ne savent pas ce qu'ils vont voir. C'est vraiment une surprise. Une fois qu'on les a fait rentrer dans le musée, ils adorent.
Et donc, de l'Afrique au Japon, c'est quand même le grand saut. Qu'est-ce qui vous a pris?
C'est comme... Vous dites, est-ce que vous mangez des spaghettis ou du roast beef tous les jours? À un certain moment, on veut essayer le sushi.
Mais non, vous êtes monomaniaque pendant 22 ans.
Mais vous savez, les gens restent mariés avec la même femme pendant 20 ans, puis un jour,
ils en ont marre.
Elle m'a fait 5 enfants, j'en ai marre d'elle, je la connais trop bien et je veux changer. Moi, j'en ai pas marre parce que je continue à acheter de l'art africain tranquillement. Mais j'ai été au Japon Et j'ai été à un truc qui s'appelle Geisai, qui est organisé par Murakami chaque année, qui est une chose très très bizarre. Il loue un énorme hangar, genre où on fait le salon d'agriculture, je sais pas quoi. Et les gens viennent et chacun paye 100 euros. Et ils ont à peu près l'espace d'une table de ping-pong où ils peuvent montrer n'importe quoi. Et je me suis promené pendant des heures là-dedans et j'ai vu 10 choses qui m'ont vraiment, vraiment étonné. Donc j'ai acheté, évidemment c'est très, très compliqué parce que personne ne parle anglais ni rien. J'ai réussi et j'ai dit, mais c'est comme, il y a quand même des jeunes japonais qui sont extraordinaires. Là, il y a une exposition à la Fondation Cartier qui s'appelait, je ne sais pas comment, mais c'était pour des gens moins de 23 ans. Et là, j'ai découvert une artiste qui s'appelle Irina Matsui, qu'on va aussi montrer au magasin. Et j'ai acheté une de pièces-là. Après, j'étais au Japon, j'y vais une fois par an, et j'ai trouvé des choses tout à fait extraordinaires. Alors, là aussi, c'est une surprise, parce que tout le monde pense que l'art japonais, c'est des mangas. On pense que c'est des mangas, ou des choses genre manga. Et dans cette exposition, on va voir qu'il y a des choses, des artistes qui font des choses complètement, complètement différentes. Et l'autre chose très, très extraordinaire, c'est que 40% des artistes que j'ai achetés au Japon sont des femmes. Par exemple, en Afrique, je n'ai que 2 femmes. Et je ne sais pas en France, par exemple, ça serait intéressant de voir dans les artistes un peu connus en France, quelle serait la proportion des femmes. À mon avis, elle ne serait pas peut-être 20%. Et aux États-Unis, à peu près. Mais au Japon, elle est très, très. 40%. Et vraiment. Je ne le savais pas, parce que quand moi j'achète des tableaux, je connais certains des artistes, mais sinon, moi, les noms, moi, je ne sais pas si quelqu'un s'appelle Pierrette ou Michel. En japonais, je n'ai pas la moindre idée si c'est un monsieur ou une dame. Pas du tout. Donc là, souvent, je dis, mais est-ce que c'est une femme qui est ça? Mais non, c'est un monsieur. Ou est-ce que c'est une dame? Alors, moi-même, je me trompe. Okay, c'est très, très... Certains, on reconnaît des choses très mignonnes et on sait que c'est une femme. Mais quelquefois j'ai même acheté un nu et il y a écrit « self-portrait ». Et c'était un monsieur. Et on voyait ses fesses et tout ça, et je dis, mais ça, c'est une très belle fille. Mais non, c'était un monsieur. Alors, jusqu'au bout, on est trompé jusqu'au bout. Ce qui m'intéresse vraiment de cet art japonais, c'est tellement, tellement bizarre. Et tellement, tellement bien fait. Tellement bien fait. Certains des artistes font 2 ou 3 tableaux par an, tellement ils sont léchés et bien faits. Par rapport à l'art chinois, qui maintenant est fait par 40 assistants, ces espèces d'usines, je peux vous assurer qu'aucun de ces Japonais-là que je collectionne, c'est entièrement fait par... Alors Murakami, qui fait des pièces gigantesques, ça, il a tout un atelier et tout ça. Mais 100% des artistes que moi, je vous assure qu'ils ont créé ça eux-mêmes dans un atelier à peu près de la taille d'une boîte de Kleenex, entièrement fait par eux.
Alors, parlez-moi de cette Shinya Inoue, qui j'ai l'impression est une femme, par la douceur de son nom.
C'est un tableau noir et on dirait qu'elle l'a tricoté peut-être ou qu'elle a fait du crochet. C'est une espèce de petite ligne noire. Et c'est très, très, très léger, élégant et magnifique. C'est vraiment un travail extraordinaire et je sais que ça doit lui prendre 2 ou 3 mois pour faire ça. Et vous regardez ce tableau, c'est vraiment... On devient obsédé par ces petites lignes. Ça me rappelle un peu le travail de Sol Lewitt qui avait fait des travaux avec des tout petites lignes, tout petites. C'est un peu le même genre. Ou comme Opalka qui écrit des numéros. C'est une espèce de travail obsessionnel et ça m'a beaucoup intéressé.
Vous avez fait une charte pour la collection d'artistes africains qui doivent être noirs, vivant en Afrique et contemporains, donc pas morts. Est-ce qu'ici aussi vous vous êtes dit, tiens, ils doivent avoir entre 20 et 30 ans?
Au début, j'ai collectionné des jeunes artistes et maintenant j'essaye d'avoir des artistes qui sont nés après 1980. Parce que je trouvais que c'était plus intéressant d'avoir des jeunes artistes. Je trouve que les jeunes sont souvent plus intéressants que les vieux. Et ça m'intéresse toujours de trouver des choses nouvelles. J'ai peut-être 200 artistes japonais. Et dedans, il y en a au moins 10 qui, à mon avis, sont des grandes stars. Je crois. Mais comme je suis gâteux, je ne me souviens pas de leur nom.
Un point commun entre l'art contemporain congolais et japonais?
Vous verrez que certains artistes japonais et congolais, on pourrait presque dire est-ce que ça c'est japonais ou est-ce que ça c'est congolais. Si on ne mettait pas d'étiquette en dessous, on pourrait même se tromper. Certains, pas tous, mais certains.
Merci.